Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Marseille, à gauche, la candidate du printemps marseillais devient la première femme élue à ce poste. Première parole de Michel Rubirola dans ce journal et commentaire du journaliste écrivain Philippe Pujol. Le maire de Lannion est élu de manifestation ce samedi, quatrième plan social depuis 2016 chez Nokia dans les Côtes d'Armor. 400 emplois menacés, un slogan, délocalisation, trahison, reportage de Jean-Michel Naga. La réforme des retraites peut attendre, première prise de position patronale ce samedi, celle du MEDEF, précision d'Anne-Laure Jumet. Nous nous rendons également en Catalogne où 200 000 personnes renouent avec le confinement. Les autorités espagnoles surveillent plusieurs dizaines de foyers de contagion de coronavirus dans d'autres régions, tout en s'ouvrant plus largement aux visiteurs étrangers. Marseille appartient à qui vient du large. Blaise Cendrars, en ouverture de son premier discours de maire de Marseille, Michel Rubirola, première femme à occuper ce poste après 25 ans de gouvernance de Jean-Claude Gaudin, l'a emporté face au candidat LR Guy Tessier. Michel Rubirola a bénéficié du report des voix de l'ex-socialiste et sénatrice Samia Ghali et ainsi obtenu la majorité absolue. Michel Rubirola sera-t-elle l'élu qui saura faire appartenir au passé ce qui a nourri la Gazette et les minutes des tribunaux? Elle s'y est engagée.
Le clanisme, le népotisme, le clientélisme ont vécu. Ce projet, c'est celui d'une ville plus verte, plus juste et plus démocratique. Aussi, je demanderai au Conseil municipal de suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est l'urgence. Et nous voterons un premier budget qui s'inscrit dans cette trajectoire. Ainsi, nous dégagerons des marges de manœuvre. Vous l'avez compris, je veux aussi faire de la lutte contre tous les gaspillages une priorité. Gaspillage de l'argent public comme gaspillage des ressources ou des énergies. Je m'engage à servir ma ville avec courage et humilité, sans mentir et sans tricher.
Michel Rubirola, fin connaisseur des pratiques et usages de mise sur la canebière. Philippe Pujol, l'auteur d'un livre enquête intitulé « La chute du monstre » a suivi de près cette élection. Est-elle de nature à rompre avec justement le népotisme et autres clientélismes qui gangrènent la politique dans la deuxième ville de France? Philippe Pujol au micro de Diane Berger.
Alors sûrement pas le clap de fin, mais en tout cas le simple fait d'avoir une volonté d'aller vers ça, c'est déjà quelque chose de très très important et de très bon. C'est-à-dire que il faut une volonté de faire de la politique de façon moderne pour déjà le commencer. Après, est-ce qu'elle va y arriver? Ben, moi, je le souhaite. Est-ce qu'elle va y arriver facilement? Non, sûrement pas. Et de toute façon, à Marseille, il n'y a pas que la politique qui doit un petit peu faire le ménage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Michel Rubirola et tous les gens qui sont avec elle qui devront un petit peu, quand ils vont ouvrir les placards, ils vont trouver de choses, ils vont trouver énormément de cadavres et énormément de gens compétents. Parce que dans les placards de la ville de Marseille, il y a des gens compétents et des cadavres. Donc, quand elle aura fait ce tri-là, elle aura fait son boulot. Et après, à elle de faire les bons choix. Enfin, à elle et son entourage. Mais j'espère qu'à Marseille, au département particulièrement, à la métropole énormément, il y aura un travail de fait, de fond, de la justice. Il faut absolument avoir des juges type juge anti-mafia façon juge napolitain, quoi. Et au niveau administratif, des organismes de la Cour des comptes doivent se pencher sur beaucoup de choses, notamment au conseil départemental et à la métropole. Parce qu'un nettoyage ne se fait que avec tout le monde.
À quoi ça ressemblait ce népotisme, ce clientélisme à Marseille au quotidien?
Depuis au moins 100 ans, on travaille sur la misère. C'est la misère qui permet de faire des affaires politiques comme des affaires financières. Donc on a récemment, les marchands de sommeil, ça c'est des affaires financières, et le clientélisme, ça c'est des affaires politiques. Ça veut dire que plus les gens sont pauvres, plus on les achète facilement, et plus on peut faire aussi qu'ils n'aillent pas voter. Parce que le clientélisme ne pouvant pas acheter tout le monde, il faut qu'il y ait une forte abstention. Vous verrez que cette élection a eu une abstention incroyable en France, mais particulièrement à Marseille, et particulièrement dans les quartiers nord, ou quartiers populaires les plus pauvres. Parce qu'on a créé une situation de faiblesse, de vulnérabilité de ces gens qui, pour certains, sont prêts à tout pour s'en sortir. Ou en tout cas, d'être achetés avec pas grand-chose. On a vu des choses incroyables pendant cette élection. La gauche a fait ça pendant quelques décennies, sous de fer. Eux, ils étaient dans un clientélisme qui récompensait les gens. Et donc, il est fidélisé. La droite, elle, a fait un clientélisme qui est encore pire, puisque c'est un clientélisme d'aliénation, c'est-à-dire on ne donne rien aux gens et au dernier moment, on leur donne des petits trucs pour qu'ils votent pour toi. aujourd'hui, ils le payent totalement.
Voilà Philippe Pujol, l'auteur de La chute du monstre, journaliste, écrivain avec Diane Berger. Grégory Doucet, cadre humanitaire de 46 ans, est devenu lui aujourd'hui le premier écologiste à diriger la mairie de Lyon, recevant l'écharpe tricolore des mains de Gérard Collomb lors d'un conseil municipal. Placé là sous le signe de l'apaisement entre adversaires politiques. Le nouveau Premier ministre Jean Castex, qui dit plancher sur la constitution de son gouvernement, s'offre une pause et s'affiche à Corbeil-Essonnes sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-Fab France, censé incarner le dynamisme économique du pays, non sans avoir insisté hier, lors de sa prise de fonction, sur une rentrée, je cite, très dure sur les fronts social et économique. Fin citation. Eh bien, en avant-première, cette mobilisation de milliers de personnes qui ont battu le pavé à Lannion, dans les Côtes d'Armor, pour la défense de l'une des unités du groupe Nokia, où près de 400 emplois sont menacés. C'est un reportage de Jean-Michel Naga.
D'une même voix, il refuse ce plan social et notamment la suppression de tous ces emplois d'ingénieurs, 200 personnes embauchées récemment et qui font la force de ce site breton. Bernard Trémulot est le délégué CFDT de l'entreprise.
Les collègues sont engagés sur des produits d'avenir, la 5G, la cybersécurité. Donc ce ne sont pas des vieux produits. Et Nokia coupe dans ces équipes-là, les supprime complètement et envoie l'activité en Pologne, en Finlande, aux États-Unis. Donc c'est même pas uniquement vers des pays, comme on dit, low cost, socialement moins disant.
Ce qui fait dire aux salariés que Nokia trahit la France, l'abandonne dans ce domaine des télécoms. Et le sentiment est largement partagé par le maire de Lannion, Paul Le Bihan.
C'est une vraie trahison, effectivement, parce qu'il y a eu des engagements de prix sur place. Le ministre de la Défense était venu à l'époque pour lancer la cybersécurité, en disant que le site de Lannion serait un pôle important, en 5G, en 4G et en cyber. Donc c'est une vraie trahison, effectivement.
Pour faire annuler ce plan social, les salariés et les élus demandent donc l'aide de l'État au plus haut niveau, Emmanuel Macron, car c'est lui qui avait validé le rachat du site par Nokia lorsqu'il était ministre de l'Économie.
Quel horizon social imaginer quand aux délocalisations répétitions s'ajoutent les ravages de la crise sanitaire. La rentrée sociale sera dure, a prévenu hier le nouveau locataire de Matignon. L'a dit, une rentrée avec au sommaire la réforme des retraites. Eh bien, les partenaires sociaux n'y tiennent pas du tout pour certains d'entre eux. Et le patronat, eh bien, première prise de parole depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé son intention de remettre sur les rails la réforme des retraites lors d'un débat organisé ce matin par le Cercle des économistes. À l'occasion des rencontres économiques d'Aix-en-Seine qui se tiennent en ce moment à la Maison de la Radio, le président du MEDEF a fait part de son sentiment. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Et Anne-Laure, il faut mettre cette réforme sur pause.
Oui, c'est ce qu'a dit Geoffroy Roux de Bézieux. Une pause pendant quelques mois, lors d'un débat avec Laurent Berger de la CFDT. Une pause car il y a, selon le président du MEDEF, d'autres priorités.
C'est vrai que là, il faut appuyer sur pause pendant quelques mois pour qu'on mette toute notre énergie derrière ce qui compte, c'est-à-dire le sauvegarde de l'outil, vous savez, l'outil de production au sens Maurice Thorez du terme, si j'ose dire, mais voilà, en train de citer Maurice Thorez, donc voilà bien, parce que c'est ça qui compte.
Faire une pause, Laurent Berger y est aussi favorable, même s'il a défendu le système universel de retraite, car le secrétaire général de la CFDT le reconnaît, les conditions ne sont pas réunies.
Personne ne sera surpris de m'entendre dire que la CFDT elle est pour un système universel des retraites, notamment parce que quand même tous ces salariés exposés en première ligne pendant la crise étaient aussi ceux qui auraient pu bénéficier de ce système, sauf que c'est une telle, non pas controverse là, une telle opposition dans notre pays sur ce sujet, qu'on n'a aucun intérêt à se mettre sur la figure à la rentrée ou pendant l'été sur le sujet. Donc il faut reculer ça, il faut prendre le temps de discuter de ça totalement à froid plus tard.
Plus tard, d'accord, mais il faudra quand même en reparler, a tenu à préciser Geoffroy Roux de Bézieux.
Pardon, je vous interromps, mais moi c'est pause pour reprendre, c'est pas pause pour jamais, hein, je pense que la nuance est importante.
Il y aura des divergences entre les uns et les autres, mais en tout cas pas maintenant.
Car pour le MEDEF, il faut toujours trouver des moyens d'équilibrer le régime de retraite. Voilà qui rejoint ce que disait Emmanuel Macron dans une interview à la presse régionale publiée jeudi soir. La question de l'allongement de la durée de cotisation reste posée, disait le chef de l'État. Et le président veut aller vite puisqu'il souhaite réengager une concertation dès l'été sur cette question des équilibres financiers. Pas sûr, au vu de ce qu'on vient d'entendre, que ce soit possible. Le nouveau Premier ministre Jean Castex a lui fait part de son intention de mettre l'accent sur le dialogue social. Ce sera la méthode, il dit hier soir sur TF1. Sur ce sujet des retraites donc, il sera vite mis à l'épreuve.
Merci à vous, Anne-Laure Jumet. Il est presque 18h10, vous écoutez le journal de France Culture. Multiplication des cas de contagion en Catalogne. Les autorités ont pris la décision de confiner une zone autour de Lérida, dans le nord-est de l'Espagne, qui comprend 200 000 habitants. Les précisions de notre correspondant à Barcelone, Mathieu de Taillac.
Les résidents du canton de Segrià ont eu 4 heures entre midi et 16 heures pour rentrer dans leur zone de 1400 km² et ceux qui étaient de passage pour en sortir. Et depuis, personne ne bouge ou presque. 200 policiers contrôlent les entrées et les sorties qui ne sont dorénavant autorisées que pour motifs professionnels et raisons de force majeure. Les réunions publiques ou privées de plus de 10 personnes sont également interdites. Les centres de jour pour personnes âgées suspendent leurs activités et les maisons de retraite ne reçoivent plus de visites. Il est recommandé aux habitants de remplir une auto-attestation avant de sortir de chez eux. C'est donc un retour en arrière jusqu'à nouvel ordre pour ce territoire rural situé autour de la ville de Lérida, un canton dans lequel les premières victimes de cette contagion sont des ouvriers agricoles payés à la journée. 155 cas ont été confirmés aujourd'hui dans la région. Parmi les 8 foyers d'infection dans la zone, il y a 4 exploitations de cultures fruitières et une entreprise agroalimentaire. Les personnes touchées par le coronavirus sont souvent des travailleurs immigrés qui vivent dans des conditions de grande précarité. Le refus de certains hôtels de les loger avait suscité une polémique il y a quelques semaines. Au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi une crise sociale, a reconnu la ministre régionale de la Santé. Les autorités nationales n'envisagent pas de nouvelles restrictions à l'échelle de toute l'Espagne. Elles avaient averti que des reconfinements locaux pouvaient avoir lieu. On vient d'en avoir le premier exemple, 2 semaines seulement après la levée de l'état d'urgence.
Mathieu de Taillac à Barcelone, la pandémie avec l'Amérique latine qui dépasse l'Europe en nombre de cas et les États-Unis, pays le plus endeuillé au monde, près de 130 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé, je cite, comprend parfaitement qu'il y a de bonnes raisons pour les pays qui veulent remettre leur économie sur les rails, mais, ajoute l'OMS, le virus ne va pas disparaître par magie. Fin de citation. Depuis sa défaite en Syrie en mars 2019, l'organisation État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières, notamment dans le vaste désert qui s'étend de la province centrale de Homs à celle de Deir ez-Zor, plus à l'est. Christian Chesneau, des dizaines de morts ces dernières 48 heures lors de combats entre djihadistes et troupes gouvernementales.
Les combats se sont déroulés autour de la localité de Sourna, en plein désert de Syrie centrale. L'aviation russe a dû intervenir pour prêter main forte aux troupes de Bachar al-Assad au sol en bombardant les assaillants djihadistes. Depuis leur défaite militaire au printemps 2019, les reliquats de Daesh mènent une guérilla de harcèlement. Mobiles, opérant dans la clandestinité, familiers du terrain, les djihadistes lancent régulièrement des raids meurtriers contre les positions du régime, mais aussi contre les forces kurdes longtemps soutenues par Washington. À la mi-mai, les hommes de Daesh ont exécuté par balle 11 personnes, principalement des éléments du régime syrien, sur une route désertique dans l'est du pays. Même si ces attaques ne représentent plus une menace existentielle pour Damas, elles restent une source de nuisances importante et empêchent une reprise en main complète des zones désertiques, véritable sanctuaire de sable pour les djihadistes. Ce qui signifie que le régime et son allié russe ne peuvent pas dégarnir ce front, ils doivent maintenir l'effort de guerre contre un ennemi souvent insaisissable.
Des employés de sites pétroliers dans le Sahara tunisien se sont mis en grève ouverte aujourd'hui à l'appel du puissant syndicat UGTT pour appuyer les demandes des habitants de la région réclamant des emplois. Cette grève intervient après des troubles sociaux fin juin à Tataouine, aux portes du désert, lorsque la police avait tenté de disperser par la force des sit-ins de chômeurs. Une manifestation cette fois contre le nouveau président controversé de la très stratégique commission électorale en République démocratique du Congo a été dispersée par la police aujourd'hui à Kinshasa. Quelques centaines de manifestants avaient répondu à l'appel de plusieurs mouvements citoyens pour dire non au choix de Ronsard Malonda, actuel secrétaire exécutif de la commission électorale nationale indépendante. Le choix de M. Malonda a été validé avant-hier par l'Assemblée nationale. La nomination officielle dit être faite par le président Félix Tshisekedi. Enfin, la météo de demain samedi pour la France, de demain dimanche pour la France métropolitaine. Le temps restera ensoleillé au sud, nuageux à très nuageux avec de la pluie localement sur la moitié nord du pays. Les températures le matin varieront de 12 à 19 degrés jusqu'à 20 à 22 degrés près de la Méditerranée.